Kasher Yachal. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est l'état de compatibilité au cas qu'en gras, je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'adultes de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Le nouveau code des assurances du 17 mars 2015 est notamment l'aboutissement d'un long processus de libéralisation du secteur en RDC. Le processus de libéralisation va se compléter avec la mise en place des animateurs de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, institution qui doit agréer les nouvelles compagnies d'assurance. Cette ouverture va certes amener la compétitivité, estiment certains observateurs, mais elle devra aussi faire face au manque de confiance qui avait poussé beaucoup d'entreprises à assurer leur patrimoine à l'étranger. Quels sont, selon vous, les préalables à remplir pour mettre ces entreprises en confiance? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour une intervention directe dans ces magazines. Mise en onde par Paul Badianyama, J.R. Lungembo est à la réalisation et coordination de ce programme présenté par Pierrot et la Meiji sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Le secteur des assurances a connu une grande réforme en République démocratique du Congo avec la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances qui a été promulguée par le président de la République en date du 17 mars 2015 et publiée au journal officiel. La grande ligne de cette loi, c'est la libéralisation du secteur qui était jusqu'alors monopole des Jinsels, société publique, la Société nationale d'assurance. Mais rappelons quand même qu'avec le monopole de la SONAS, plusieurs entreprises avaient préféré assurer leur patrimoine à l'extérieur de la RDC. Mais avec le nouveau code des assurances, on espère que les entreprises qui avaient recouru aux sociétés expertes à l'extérieur du pays pour assurer leur patrimoine pourront regagner le pays et que ces capitaux pourront profiter à la RDC. Mais une question de savoir qu'est-ce qui doit être fait pour mettre les entreprises en confiance et qu'ils puissent retourner dans les systèmes d'assurance en RDC, en attendant bien sûr la mise en place des animateurs de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, une institution qui doit en principe agréer les nouvelles compagnies d'assurance dans les pays. Alors comment arriver à remettre la confiance dans ces domaines pour qu'il y ait des entreprises qui n'avaient plus confiance dans les systèmes d'assurance en RDC puissent revenir? C'est la question au centre de notre échange. Et beaucoup de messages sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs où les débats a commencé depuis hier. Gracie Manzongo de Kinshasa, il dit ceci: le manque de confiance des entreprises existe et persiste car le Centre national des assurances, qui est la SONAS, n'est pas toujours assez organisé. L'essentiel n'est pas d'avoir trop d'institutions pour harmoniser la question des assurances, mais il s'avère impérieux de bien structurer et organiser ces institutions pour maintenir la confiance des entrepreneurs. Et Maître Sonville, vous êtes avec nous en direct de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour M. Pierrot, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Pensez-vous qu'avec seule la libéralisation du secteur, avec ce nouveau code, ou bien l'instauration d'une autorité de régulation, ça peut redonner confiance aux entrepreneurs pour qu'ils reviennent et assurer leur patrimoine à RDC?
M. Pierrot, nous ne pouvons pas numérer. Le problème qui est là, c'est quoi? Malgré la nouvelle régulation de sociétés d'assurance, s'il n'y a pas de bonne foi, de bonne volonté, rien ne mènera de l'avant. Pourquoi je dis ça, M. Pierrot? Notre inquiétude, c'est de voir tous les entrepreneurs aller jusqu'à la police d'assurance à l'extérieur. Il faut poser la question à ces entrepreneurs, pourquoi ils font cela? C'est tout ce qui est soutenu, la gestion de l'argent qui est versé auprès de la SONAS, de la Société nationale d'assurance, n'est pas fiable. Devant une concurrence, la SONAS doit bien d'abord désintéresser ses sinistres, sauf qu'il n'est pas fait. Or, même la prise en charge des sinistres, elle est problématique, M. Pierrot. Aussi bien, avocat. Nous avons autant de dossiers au niveau des différentes agences de semences. Mais il faut commettre peut-être 2 ans, 3 ans pour que la semence puisse indemniser et le sinistre. Alors, dans ce cas pareil, avec des entreprises très bien organisées, puisque la semence a beaucoup de marchés.
Il y a l'incendie,
L'assurance vie, l'assurance a beaucoup de marchés. Or, par rapport d'abord aux accidentés, l'assurance n'a absolument rien fait. C'est la mauvaise foi.
Alors même l'automobile, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la SONAF, elle, ne pouvait pas réussir dans un monde de libéralisation. Une seule société qui a le monopole, ça ne pourra pas marcher. C'est pourquoi il y a eu ces codes d'assurance. On a consacré la libéralisation. Beaucoup de d'autres entreprises qui sont à l'extérieur peuvent revenir ici aussi commencer à exploiter les secteurs de l'assurance. Alors, comment on peut redonner confiance aux uns et aux autres? On sait déjà que la SONAF a eu des limites. C'est pourquoi on a libéralisé les secteurs. Mais alors, comment redonner confiance pour que ceux qui avaient souscrit à l'extérieur puissent revenir au pays? Parce que là, ça ne sera plus celle de la SONAF, mais il y aura d'autres entreprises qui pourront venir investir dans les secteurs.
Oui, pour obtenir la confiance, M. Pierrot, mais pour des clients qui sont détournés, il faut améliorer les conditions de vie. Leurs conditions, les conditions dans lesquelles se trouvent ces clients-là. Il peut y avoir ici une concurrence. L'assurance a à répondre à cette concurrence loyale. Maintenant, il faudrait que les entreprises qui viendront ici, les entreprises privées, puissent répondre aux normes qui sont exigées, aux normes que les entreprises qui se mettent à souscrire à l'étranger puissent retrouver dans leur manière de gestion. Puisqu'aujourd'hui, M. Pirot, il y a des entreprises qui souscrivent leur police d'assurance au Congo-Brazza, en Zambie, en République sud-africaine. Il n'y a pas de la magie. Il suffit que peut-être ces entreprises puissent améliorer leurs conditions d'accueil, les souscripteurs, elles iraient de l'avant. Et puisqu'il ne faut pas oublier, M. Pierrot, que la semence se trouve même dans le commerce. Or, beaucoup, les Congos importent plus qu'exportent. Alors, même s'il y a des sinistres ici au niveau du Congo, c'est la semence qui prend en charge cela. Or, il faut améliorer toutes ces conditions, toutes ces prises en charge. Au-delà de ça, M. Pierrot, si aujourd'hui, les entreprises n'ont plus confiance de souscrire leur police d'assurance au niveau du Congo. Puisque les agences ici ne sont pas crédibles. Auparavant, M. Pierrot, je peux donner un exemple. Il y avait l'assurance Charles Lejeune. Et l'assurance Charles Lejeune, qui était un courtier d'assurance, qui s'occupait de tout le patrimoine de la GECAMI, des grandes entreprises. C'était une entreprise belge, mais qui était un courtier d'assurance agréé à la SONAF. Et elle versait la prime auprès de la SONAF, et la SONAF lui versait quelques pourcentages. Et voilà que toutes les entreprises avaient confiance en cette agence-là, puisqu'il y avait du sérieux. Il y avait du sérieux, lorsqu'on prend l'engagement, on indemnise les gens sans problème, c'est ça le problème. Si cela est amélioré de ce côté-là, je suis que la RDC va récupérer toutes ces entreprises-là, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. L'argent qui est versé par exemple à la SONAF va dans les poches des responsables. Or, la SONAF a beaucoup d'argent et ça ne peut pas mettre beaucoup de temps pour qu'ils soient indemnisés les sinistres.
Oui, merci beaucoup. Voilà. Et là, vous avez dit qu'il y a la probité dans le travail. Le nouveau code d'assurance fixe quand même des conditions de formation des entreprises d'assurance et des assurances. Il fixe aussi de conditions d'agrément pour une société étrangère qui voudrait bien sûr venir investir en RDC dans les domaines des assurances. Il y a des conditions qui sont fixées par la loi. Et vous estimez que si on travaille en respectant la loi, on peut arriver à redonner confiance à les secteurs et que ces entreprises qui étaient parties souscrire à la police d'assurance à l'extérieur puissent revenir, parce qu'appelons quand même que selon le professeur Marcel Moulumba, peut-être qu'on va avoir des moments à l'autre comme invité, l'assurance c'est un secteur de développement dans beaucoup de pays. Merci beaucoup Maître Sonville, on retourne à Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et vous, dans votre message que vous nous avez envoyé tout à l'heure, vous estimez que le problème de la libéralisation, c'est normal, on peut libéraliser, on peut avoir autant d'investisseurs privés qui peuvent venir investir, si on peut utiliser les termes, dans les domaines. Mais le problème pour vous, c'est le système, ce sont les antivaleurs. Comme Maître Sonville dit, bon, ils peuvent venir, de nouvelles sociétés peuvent venir, mais s'il n'y a pas le changement dans la façon de travailler, dans la façon de concevoir, cela ne peut pas améliorer les secteurs des assurances félicien.
Exact. Il est vrai que la privatisation ou la libéralisation des assurances peut résoudre des problèmes de confiance dans la mesure où chaque compagnie se forcera de satisfaire les besoins de sa clientèle. Mais cela ne veut pas dire que l'échec actuel de la SONAS est pour cause l'absence de l'autorité de régulation, comme vous l'avez souligné, ou l'absence de concurrence. Mais plutôt, c'est la culture des anti-valeurs qui caractérise la gestion de la chose publique dans notre pays. Et il faudra que nous puissions comprendre que la réforme des entreprises n'a pas réussi, mais personne ne veut souligner cela, personne ne veut relever cela. La SONAS, quand elle a été créée, elle n'avait pas de problème de confiance ou de problème de fonctionnement, ça a bien marché. Mais c'est au fur et à mesure que cette entreprise est entrée en déliquescence, au fur et à mesure qu'on change les animateurs, et au fur et à mesure qu'il y a le clientélisme et le tribalisme dans la nomination de ceux qui dirigent des animateurs, que l'entreprise est en train de sombrer. La SONAS n'est pas le seul exemple dans ce pays. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont dans la même situation. Ce n'est pas à cause de la du monopole de l'État. Ailleurs, on a trouvé des grandes sociétés, des méga mêmes, mais qui appartiennent à l'État et ça fonctionne très bien. Nous devons résoudre le problème à la source. Nous avons un problème d'hommes ici dans ce pays, on ne veut pas
mais
de
problème d'antivalère, si
on est en train de trouver des formules qui...
Oui, Félicien, mais ça c'est quand le débat qui concerne la SONAS en tant qu'entreprise publique, vous l'avez dit, que le problème c'est les antivaleurs, mais dès lors qu'il y a la libéralisation, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas seulement de Congolais qui vont venir investir dans les secteurs des assurances, c'est aussi des sociétés étrangères. Pensez-vous que les sociétés étrangères qui peuvent venir ont le même problème des antivaleurs, des hommes, des gestions, comme les cas avec nos entreprises de Félicien?
Non, là, je suis d'accord, la différence était là, parce qu'à ce moment-là, il y aura au moins des étrangers, et surtout la peau blanche qui sera là, et qui va créer l'émulation avec peut-être des Congolais qui vont avoir aussi des compagnies, ça peut créer l'émulation. Mais moi, je veux souligner que la SONAS n'a pas échoué comme toutes les autres entreprises. Et il n'échoue pas parce que ça appartient à l'État. Mais ça échoue parce que dans notre mentalité, ce qui appartient à l'État, ça appartient à personne. Et il y a l'impunité, il y a le clientélisme, et il y a le tribalisme. Mm-hmm. Et voyez, dans toutes les entreprises, comment ça marche. Okay, les entreprises qui ont été transformées en établissement. Tenez le cas de l'OCC, il était entreprise publique, aujourd'hui il est établissement. Est-ce qu'il fonctionne mieux que quand il était entreprise publique? Mais ça marchait quand c'était l'entreprise publique. Maintenant, la réforme a dit que ça devient l'établissement. Et ça marche? Non.
Et d'ailleurs, vous avez évoqué cette question, Félicien, je crois bien qu'on pourra revenir dans un débat plus élargi encore autour de l'évaluation de ce programme de transformation des entreprises, hein, qu'on a vu. Le gouvernement avait lancé ce projet avec les COPIREP pour transformer la plupart d'entreprises en sociétés commerciales, que ce soit la Régie des Eaux, la SNEL, que ce soit l'ex-SONATRA. Et on pourra faire un débat d'évaluation pour savoir, en sommes-nous aujourd'hui, quelle a été la performance de ces entreprises après la transformation, qu'est-ce qui a été amélioré. On pourra revenir là-dessus avec les témoignages de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de ces entreprises transformées en sociétés commerciales. On pourra voir cela, si possible, avec le COPIREP qui a la charge de piloter les entreprises. Et pour revenir à notre débat, vous estimez que s'il y a d'autres compagnies étrangères qui viennent investir dans le domaine des assurances, ça peut améliorer la situation, mais parce que l'échec de la SONAS, ce n'est pas parce que ça a été une seule société ou la société de l'État seulement, mais le problème, c'était plus dans la conception de la gestion de la mentalité. Merci beaucoup, Félicien. Professeur Ignace, vous êtes avec nous. De Colusi, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation au débat. Mm-hmm. Je pense que, comme je l'ai dit sur la page Facebook, il était plus que temps que l'on puisse passer du monopole d'entreprises d'assurance vers la libéralisation de ce secteur. Mais alors, moi je me dis, pour que cela puisse bien marcher, Il faut reconnaître d'abord que la zone semble être débordée, tantôt que le travail n'était pas bien organisé, un problème de management dans ce secteur-là. Je voudrais dire que pour que cette libéralisation puisse vraiment donner le bon fruit, il faudrait au départ que la vulgarisation de cette loi ou de cette disposition de la loi en la matière soit faite de manière très élargie, parce que cela permettrait aux gens de comprendre exactement et même de faire confiance aux nouvelles entreprises qui naîtraient, sachant que c'est l'État qui a autorisé que cela se passe. Mais en outre, j'aurais aimé, et ça c'est très important, que l'État puisse parrainer, c'est pas ces différentes entreprises qui vont naître, comme ça se passe dans le secteur des banques avec la BCDC. Donc une espèce de monitoring, ça c'est d'ailleurs si sur la d'entrée des jeux, il y a une suite de la loi qui va donner une espèce de contrôleur ou tout dans ce sens. Donc il faut que l'État puisse parrainer. À ce moment-là, on va éviter certaines situations où on a vu, comme j'ai établi un parallélisme avec certaines banques, les gens leur ont fait confiance. Elles ont disparu, l'État n'a rien fait, les gens continuent à courir avec des plaintes. Ça, c'est très important. Mais un deuxième aspect, ou un troisième aspect, toujours dans les stratégies, c'est que d'un côté, l'État va vulgariser, de l'autre côté, ce sont ces entreprises qui vont naître, qui vont faire leur propre marketing en offrant plusieurs avantages palpables, ce qui va attirer beaucoup de la clientèle. Et enfin, je me dis, c'est à l'État de faire attention avec cette libéralisation quant au choix et à l'acceptation des animateurs de nouvelles entreprises en choisissant un critère plus ou moins très rigide pour éviter de prendre n'importe qui. Et nous avons certaines maladies dans nos sociétés. Nous risquons de voir les mêmes personnes qui se trouvaient à la CONAF créer de nouvelles entreprises ou certains hommes politiques qui vont se lancer sur ce petit marché-là. Et avec toutes les conséquences, lorsque ça ne tourne pas, ce sont des intouchables. Et c'est comme je l'ai dit, il y aura l'ouverture du boulevard des larmes dans notre société.
Alors, je vous garde encore, professeur Ignace, parce que vous avez évoqué une sorte de, on peut dire, des contrôles de l'État dans les domaines, vous avez dit, avec la Banque centrale qui est quand même comme un parapluie, n'est-ce pas, pour donner confiance. Mais les codes d'assurance a prévu la création de l'autorité de régulation et des contrôles et des assurances, hein, l'ARCAP. Si je vois la loi, c'est un établissement public à caractère technique qui sera chargé d'éveiller à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance, à la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurance et des réassurances, ainsi qu'à leur capacité d'honorer leur engagement. En principe, l'ARCA, c'est qui va jouer ses rôles de pouvoir même permettre la création et l'agrément des nouvelles compagnies d'assurance qui pourront être instaurées. Mais déjà, professeur, on a des petits soucis parce que ça fait plus une année maintenant que nous avons les nouveaux codes d'assurance. On a difficile à pouvoir évoluer parce qu'on n'a pas encore désigné les animateurs de cette institution de l'autorité des régulations. Est-ce qu'on peut dire déjà que ceci risque de poser des petits soucis quand même, comme notre débat tourne autour de la confiance. Le fait déjà qu'on traîne, qu'on ait la loi et qu'on ne soit pas mesure jusque plus d'une année presque à désigner les animateurs de l'autorité des régulations, est-ce qu'on peut dire que cette démarche risque aussi de s'élever encore de doutes dans la tête de tous ceux-là qui pensent venir investir dans le secteur?
Non, vraiment, moi je ne pense pas. Je crois que c'est un secteur très très glissant où il faut prendre du temps pour offrir plus de garanties et aux clients et à ceux qui vont venir investir dans ce domaine. Donc pour moi, je mets cela, bien que ça a pris trop de temps, acceptons-le, mais je mets cela beaucoup plus, je ne justifie pas, à mon humble avis, je mets cela au compte d'une préparation pour éviter que cette structure tombe dans des attaques valables et des erreurs quant à sa mise en œuvre.
Merci beaucoup, professeur Mias, de nous avoir appelé d'écologie. Hein. Vous avez quand même la peur pour dire qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que beaucoup d'autres personnes créent des sociétés fictives ou soit les anciens animateurs de la SONAF se transforment en spécialistes et créent des entreprises qui pourront être agréées demain et qu'on se retrouve encore dans un cercle vicieux, cela veut dire, avec le même comportement, le même problème dans les secteurs. Et c'est ça aussi, hein, l'importance même de cette autorité de régulation pour pouvoir avoir un œil sur tout ce qui doit se faire, tout ce qui doit être créé. Merci beaucoup. Retourne ici à Kinshasa, maître Trésor, bonjour.
Radio Catherine, en fait, je commence d'abord par saluer l'idée parce qu'elle est géniale. Vous savez, la CEMAS elle-même n'a pas eu à répondre en bonne et due forme au rôle qui la concernait, en fait. En ce qui me concerne, moi, par rapport à ce sujet du jour, je veux d'abord vous dire que la CEMAS était au four et au moulin. Alors, lorsqu'il y a eu la libéralisation, c'est bien. Mais ce que moi j'aurais voulu souhaiter à ce niveau, c'est que cette libéralisation ne puisse pas être, ou se limiter au niveau des heures, qui ne sont pas seulement verbales, qui sont aussi pratiques. Donc nous voulons avoir beaucoup d'entreprises qui vont en fait intervenir dans ce secteur pour que l'assurance soit une chose réelle, que les différentes entreprises ou les gens soient en fait aidés dans ce secteur-là. Mm-hmm. C'est ce que je voulais demander. Mais un autre aspect, c'est le recyclage. Les agents des différentes entreprises qui viendront en fait dans ce secteur-là, il faut qu'ils procèdent au recyclage. Ils doivent avoir des notions pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le même scénario que nous avons connu avec la CEMAS, parce qu'elle-même ne répondait même pas aux critères connus d'elle. Donc il y avait beaucoup de failles. Donc je pense, ce que moi je soulève à ce niveau, c'est le recyclage. On doit procéder au recyclage pour que l'on ne puisse pas commettre encore de tels scénarios. Quand même, dans un premier temps, comme je vous ai dit tantôt là, il faut soutenir l'idée car elle est géniale.
Merci beaucoup, Maître Trésor. L'idée de la libéralisation est déjà faite, la loi est déjà là. Mais pour vous, c'est la capacité, c'est le. Professeur Hier, ça a évoqué tout à l'heure la capacité managériale, n'est-ce pas, dans la gestion de la CEMAS. Vous souhaitez même que ceux qui vont venir avec des nouvelles entreprises puissent être assez formés, leur capacité managériale aussi augmentée pour gérer les secteurs sans tomber dans les erreurs qui ont été déplorées du temps de la Société nationale d'assurance. Merci beaucoup, Maître Trésor. Léon, vous êtes à Arou. Bonjour, Léon.
Oui, monsieur, bonjour, monsieur Léon, et tout à l'heure, de cette commande. Je crois que, monsieur Gilles, nous avons fait beaucoup de tautologie. On peut faire cette différence, on va encore faire les différences de l'autre. Je crois que la privatisation, c'est très bien, parce que c'est ça qui fait la concurrence. Vous voyez, depuis qu'on a créé la CEMAS, on a vu comment la CEMAS était. On a vu la progression. À un moment comme ça, il y a des crises. C'est la chose qu'on a fait. C'est notre processus. Donc, ce processus qui peut nous donner peut-être une expérience, c'est ça. On a fait ça, ça ne tient pas, mais là, nous sommes dans la vie. Ça donne la concurrence, disons. Vous voyez, pour le moment, nous sommes c'est presque la France avec l'Ouganda, tous ces pays de Kenya. Il y a des privatisations. Vous voyez, ça progresse. Parce que s'il y a la concurrence, il y a aussi l'amélioration du travail. Je crois que c'est des défauts. On doit privatiser ce secteur-là.
C'est déjà fait. Vous estimez, merci beaucoup, Léon. Vous estimez, comme l'expérience de l'Ouganda, où vous êtes presque à la frontière, vous estimez que beaucoup d'entreprises ont été ouvertes, n'est-ce pas, aux capitaux privés. Avec la libéralisation, il y a la concurrence qui s'installe, loyale bien sûr, et ça qui permet aussi d'améliorer les secteurs. Olivier, vous êtes bien sûr à Badolité, vous gardez la ligne. Je jette encore un coup d'œil sur la page Facebook avec Patrick Mutombo. Il dit ceci: pour mettre ces entreprises en confiance, il faut créer des nouvelles compagnies d'assurance en appliquant le nouveau code, ce qui pourra aussi avoir des prix compétitifs. Et de cette façon-là, je crois beaucoup de ceux-là qui avaient recouru à l'extérieur, ils peuvent revenir au pays et pouvoir investir. Albert Mbakama, ces entreprises doivent faire une étude de marché en épinglant les faiblesses que la CEMAS avait présentées sur les terrains, et ils doivent innover en appliquant bien sûr la concurrence loyale, car un marché monopolistique ne bénéficie pas aux consommateurs. Alors, il faut la compétitivité. Mais ici, Albert, qui est sur la page Facebook, insiste beaucoup sur la capacité aussi de ces nouvelles entreprises de pouvoir s'adapter, d'étudier les marchés et de proposer des produits aux souscripteurs, des produits qui puissent se permettre aussi à chacun de se retrouver en cas de besoin. Merci beaucoup, Albert, d'être avec nous sur la page Facebook 081-890-75. C'est pour faire les débats autour du nouveau code des assurances qui est déjà promulgué, mais il reste la mise en place. Le l'autorité de régulation. Et plusieurs personnes estiment que c'est là pour redonner confiance à ces entreprises qui avaient souscrit à la police d'abonnement à l'extérieur du pays. Mais alors, quels sont les préalables pour arriver à redonner l'image et surtout redorer l'image et surtout redonner confiance à tous ceux-là qui avaient quitté le pays, qui ont souhaité souscrire la police d'assurance à l'extérieur? C'est la question au centre de notre échange.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Cap.
Nous avons Olivier qui nous appelle de Gbadolité. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Olivier.
Moi, je dirais personnellement que je suis d'avis du passage du secteur d'assurance réellement à la libéralisation de ce secteur. Vraiment, je suis d'avis. Pourquoi je dis ça? Parce que l'administration, de manière générale, en RDC est polluée. Alors, pour une meilleure perspective, c'est là de demander de la soumettre à des pressions concurrentielles pour permettre la compétitivité sur le marché. Mais également, il ne faut pas se limiter là. Il faut renforcer le mécanisme thérapeutique et appuyer sur des suivis et des sanctions efficaces, puisqu'on se rend compte d'une politique frauduleuse dans le trafic de documents administratifs. Cela est trop exagéré vraiment dans ces secteurs. Souvent, pendant que l'administration est en rupture de stock, on voit des permis de conduire ainsi de suite. Les particuliers disposent d'importants lots qui le coulent sur le marché noir, alors ce qui est vraiment à déplorer. Alors, il faut aussi renforcer les stratégies sur le mécanisme de renforcement d'une performance, d'une administration vraiment performante. Quand on comprend pourquoi certains pays pauvres en ressources naturelles comme la Suisse, le Japon, sont aujourd'hui très développés en raison d'une administration performante, en performant, en renforçant le mécanisme axé sur le cyber, sur les actions efficaces et en performant l'administration dans ce domaine de l'assurance, mais aussi en épuisant la population sur le domaine de l'assurance. Je pense que ça peut faire avancer les choses et redonner confiance aux assujettis.
Merci beaucoup. Olivier, vous avez insisté sur la formation, l'administration. C'est pourquoi tout à l'heure, il y a notre ami Maître Trésor a insisté beaucoup sur s'il y a ces nouvelles compagnies qui peuvent venir investir dans les domaines des assurances, s'ils doivent avoir une capacité managériale très élevée au-delà de ce qui a été fait déjà par la SONA, ça peut faire que les gens aient confiance aussi dans ces domaines et que ceux qui avaient souscrit à l'extérieur puisse revenir au pays. Merci beaucoup pour cela, Olivier. Notre invité est déjà avec nous en ligne. En attendant, on va écouter Arsène qui nous appelle de Dar es Salaam. Arsène, bonjour. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour. On a des petits soucis des lignes avec Arsène qui nous appelait tout à l'heure de Dar es Salaam en Tanzanie. On revient ici à Kinshasa. Nous avons en ligne notre invité, le professeur Marcel Moulumba. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Donc, vous êtes spécialiste dans ce domaine des assurances. Nous avons parcouru plusieurs publications que vous avez mises sur la place publique dans le domaine des assurances. Vous avez aussi géré la SONAS dans les temps. Avant peut-être qu'on entre dans les vifs, est-ce qu'il ça a été vraiment très très important pour la RDC de libéraliser le secteur des assurances?
Oui, je pense. Merci de me donner la parole. J'ai suivi également quelques intervenants tout à l'heure. Je pense que l'ouverture du marché est une chance pour la République démocratique du Congo. C'était très important, il fallait le faire et il était plus que temps.
Et vous avez aussi été, je crois, bien PDG de la SONAS, bien avant qu'on se félicite de l'ouverture du marché. Quelles ont été alors les faiblesses dans ces domaines quand c'était géré par ces systèmes de monopole de la SONAS?
Bon, les faiblesses se trouvent sur plusieurs axes. Le premier axe, c'était les textes qui réglementaient le marché. Mm-hmm. Nous avions des lois, comme nous les appelons tout le temps, éparses, où chaque branche d'assurance avait une loi. Et mais il y avait également une absence de cohésion entre les aspects techniques et les aspects financiers. Et d'autant plus que l'absence de la cohésion ne pouvait pas permettre à la SANAS d'évoluer convenablement. Alors, l'ouverture du marché, en principe, s'accompagne toujours d'une autorité de régulation. Et l'autorité de régulation que l'on vient de mettre en place actuellement permettra de pouvoir faire avancer le marché d'une manière globale sur le plan de la gérance, comme les autres disaient, gouvernance, et sur le plan technique, même sur le plan commercial, parce qu'il y aura plusieurs, on va renforcer les canaux de distribution. On pourra alors à ce moment-là développer ce que j'appelle tout le temps la culture des assurances au sein de la population.
Et vous avez dans une de vos publications que nous avions exploité hier insisté sur l'assurance en tant qu'effet et moteur de développement. Comment, en quelques lignes, on peut comprendre cela?
Mais vous savez que l'assurance encourage les investissements. Ça, c'est d'une chose. Et quand il y a investissement, il y a création des richesses dans un pays. Et quand il y a création des richesses au travers de la création des emplois, il y a une bonne distribution de ces richesses et donc il y a développement. L'assurance, prenons globalement, il y a des assurances dites qui en fait s'approchent des assurances de l'épargne et puis il y a des assurances de dommages. Les assurances dites qui s'approchent de l'épargne fonctionnent comme la capitalisation. Donc ça pousserait la population à pouvoir épargner. Et l'épargne qui provient de l'assurance, nous l'appelons l'épargne d'investissement. Donc l'argent que l'on épargne, qui n'est pas affecté au sinistre, cet argent peut être prêté aux investisseurs et créer des petites et moyennes entreprises qui amèneront vers le développement. Du point de vue des assurances de dommages, vous avez la protection des biens, vous avez également la protection des hommes, parce que les hommes comme les biens constituent le patrimoine d'une nation. Sous la responsabilité civile, l'État protège les siens, et même les gens se protègent aussi conformément au code civil, quoi.
Et d'ailleurs, dans ces débats, quand nous avons lancé les débats, c'est la question de conscience. On a vu des entreprises du système, par exemple, des Nations Unies, le système international, qui ont plus souscrit leur police d'abonnement à l'extérieur. Pensez-vous que la libéralisation, l'autorité de régulation, ce sont quand même de certains préalables qui peuvent redonner confiance à ce que ce sont des capitaux quand même qui ont été soucis à l'extérieur pour revenir au pays?
Tout à fait. J'ai suivi un des intervenants tout à l'heure qui affirmait que les capitaux peuvent revenir au pays. Non seulement qu'ils peuvent revenir, mais ils sont obligés de rester au pays. La délocalisation des risques est interdite dans la loi que nous avons actuellement. Donc, quand il y a une autorité de régulation, elle va suivre ça de près pour que les gens ne délocalisent pas. Il n'y aura plus de raison pour délocaliser parce qu'il y aura toutes sortes de compagnies d'assurance crédibles dans notre pays. Sauf qu'il va falloir peut-être faire une certaine rétention légale, c'est-à-dire permettre à certaines compagnies d'assurance qui veulent placer à l'extérieur, placer d'abord au pays suivant la rétention fixée, et puis le reste, on peut le placer à l'extérieur pour une bonne protection, en attendant la solvabilité des compagnies qui sont sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose et la plus importante, il y aura amélioration des services. La compagnie nationale a éprouvé beaucoup de difficultés, tout simplement, ça je l'ai dit, je le répète encore, en son temps, disons actuellement les choses ne sont pas les mêmes, en son temps, la population avait sa part de responsabilité. Il y avait des gens qui pensaient que par les assurances, ils pouvaient s'enrichir et ils montaient des faux sinistres. Il y avait des agents qui géraient mal, y compris peut-être la hiérarchie, en confondant l'argent des assurés avec leur propre poche. Il y a eu aussi un tout petit peu les dirigeants à l'époque qui eux aussi pensaient que l'argent que se trouvait à la SANAS, c'était de l'argent sur lequel on pouvait mettre la main comme on voulait. Et même l'argent qui était placé dans les provisions techniques, il n'y avait pas de marché financier chez nous, mais on pouvait placer cela dans l'immobilier. Vous avez certains immeubles, certains bâtiments qui étaient achetés avec des provisions techniques, mais qui ont été simplement spoliés, pris par des personnes, simplement au nom de la hiérarchie, au nom de la responsabilité, au nom de l'autorité. Donc toutes ces choses-là ont rendu le fonctionnement de la compagnie nationale très, très, très difficile, y compris le manque d'encadrement efficace. Le manque d'encadrement, c'est en fait... Allez, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui n'a pas d'assurance, il est attrapé sur la route. Quelle sanction? les lois n'étaient pas sorties des modalités d'application. Il suffisait qu'ils donnent un 5 000 francs à quelqu'un, on le laisse passer. Maintenant, avec la loi actuelle qui est bien encadrée, je suis certain, je fais confiance à ceux qui l'ont montée. Je connais principalement le président qui a conduit la commission de libéralisation. C'est un monsieur très, très, très calé. C'est lui qui avait fait la première loi à l'époque. Et c'est lui également, M. Kabiti, c'est lui également qui a conduit la commission de la libéralisation.
Et parce que vous avez évoqué la crédibilité, professeur, avant qu'on connaisse d'autres compatriotes, en termes de crédibilité, il y a un auditeur, c'est le professeur Ignace qui s'inquiétait, hein, il est à Colésie, il disait, mais la peur pour lui, c'est de voir dans cette libéralisation les anciens dirigeants, ou bien ceux qui ont travaillé à la SONAF, ou bien les politiques, venir aussi créer des sociétés, on peut dire, écrans, fictives, pour investir, parce qu'on sait que c'est un domaine où nous allons manipuler des chiffres. Pensez-vous qu'avec notre expérience, parce que le premier auditeur s'inquiétait de la culture des antivaleurs, que cela peut aussi nous protéger contre des sociétés fictives qui peuvent être créées par ceux qui ont manipulé, travaillé dans les domaines, dans les temps?
Ce que j'ai aimé, moi, dans la loi actuellement, dans le code des assurances, c'est qu'il y a une série de sanctions. Alors, ce qui est important, c'est pas simplement d'écrire les sanctions dans une loi, c'est de les appliquer. Et là, je pense que l'autorité de régulation qui sera en place doit être assumée par des personnes intègres et qui ne sont pas sous l'influence de quelqu'un, qui peuvent agir avec intégrité et qui peuvent appliquer la sanction. Et à ce moment-là, je suis sûr que tout le monde va respecter la chose. La crédibilité va se faire petit à petit dans le secteur. C'est un secteur, comme on dit, de confiance. C'est un secteur de choix. Et donc, il faut pousser la population à choisir entre 4-5 services qui seront sur place. Mais ils vont choisir le secteur qui est crédible, le secteur qui est intègre. Ils vont choisir la compagnie qui respecte la loi et la compagnie qui peut rembourser, c'est-à-dire payer. Parce qu'en fait, l'objet social d'un secteur de l'assurance, c'est d'intervenir quand quelqu'un a des problèmes.
Merci, professeur. On va revenir à vous. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Notre débat, c'est autour du nouveau code des assurances qui a été promulgué et publié au journal officiel, la mise en place de l'autorité des régulations. Est-ce que cela peut redonner confiance aujourd'hui à certaines entreprises qui avaient souscrit à la police d'assurance à l'extérieur du pays, 081-890-6315?
Parole aux auditeurs.
Maurice, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot à la musique. Je salue également le professeur, notre invité du jour.
Alors, comment on peut arriver avec la nouvelle loi, les explications données par le professeur? Il a insisté pour dire que le secteur de l'assurance est un secteur de développement et dans l'avenir. Après cette nouvelle loi, comment on peut arriver à redonner confiance afin que les grands systèmes, les grandes entreprises, ceux-là qui avaient souscrit à l'extérieur, puissent revenir dans les systèmes d'assurance de notre pays?
Oui, à cette question, je vais en fait aller dans le sens en fait de l'orientation du professeur par rapport à la thématique. Il a dit quelque part que les services d'assurance, c'est un facteur de confiance et de crédibilité. C'est vraiment ces deux concepts sont le mieux, en fait, qui doivent peut-être nous donner de la matière, qui doivent également nous guider pour bien comprendre, en fait, le secteur de l'assurance. Alors, vous savez que j'ai donc commencé également à saluer le processus, en fait, de cette libération, de libéralisation plutôt. Bien que ça soit en retard, parce qu'on ne pouvait pas admettre un grand pays comme le nôtre, où ce secteur devait être libéralisé, on devait avoir plusieurs sociétés d'assurance dans notre pays, mais nous ne savons pas pourquoi cela s'entraînait, ça a pris beaucoup de temps, et qu'aujourd'hui, la Société nationale d'assurance a perdu toute sa crédibilité. Bien qu'aujourd'hui, elle peut se vérifier chaque jeudi pour nous donner, faire cette publicité de jeudi sinistre, tout en nous montrant des vieux billets de banque délavés, mais l'assurance, les véritables sociétés d'assurance que nous avions connues dans certains pays, même africains, prenons par exemple le cas du Gabon, vous n'avez même pas besoin de venir exposer des billets de banque à la face en fait du monde. Vous avez juste besoin en fait de faire preuve de crédibilité et de confiance dans ce que vous abattez comme travail comme service que vous offrez en fait à votre clientèle. Alors, vous avez vu par exemple au Gabon, j'ai connu un accident. Et cet accident, je l'ai connu à la veille en fait de l'expiration de l'assurance. Et j'ai connu en fait il y a un chauffeur à moi qui était en fait mon conducteur d'un taxi que j'avais à Libreville. Alors, il est arrivé que ce monsieur a connu un monsieur là qui était presque en fait qui devrait mourir. Alors c'était juste à la veille et ça intervenait incendie et l'assurance s'expirait le lendemain, le dimanche. Oh, au Gabon, généralement, le samedi, c'est off, c'est un jour, en fait, on ne travaille pas. Alors, ce jour-là, je me suis vraiment exorcié. J'ai été avec lui à l'hôpital, jusqu'à la police, j'ai fait quand même ma déclaration. Et j'ai appelé mon service d'assurance. Le service d'assurance m'a demandé de glisser, le lendemain, en fait, le dimanche-là, de glisser les documents que j'ai reçus, en fait, dans la police, sous leur porte, au siège de leur entreprise. Et c'est ce que j'avais fait. Et le lendemain, plutôt le lundi, l'assurance m'a appelé pour me faire comprendre que je devais me présenter devant en fait, leur bureau. Je suis allé, j'ai expliqué la situation. Et ils m'ont déchargé ces jours-là. Ils m'ont dit, bon, les restes, vous gardez d'abord les factures d'ordonnance, factures de sécurisation, tout ce que vous avez dépensé depuis l'accident. Et le reste, nous continuons. On va vous rappeler dans une semaine pour indemniser en fait votre victime, tout ça. Et vous rembourser tout ce que vous avez dépensé. Et c'est ça qui s'est fait. Au bout d'une semaine, on m'a appelé et j'étais étonné. Ils ont remboursé en fait tout ce que j'avais dépensé et ils ont indemnisé la victime. Vous voyez que ça relève quand même d'une certaine crédibilité. Alors, une entreprise qui offre de tels services à sa clientèle, je pense qu'il n'a même pas besoin de venir avec de pubs, beaucoup de pubs à la télévision pour montrer des billets de banque, des petits, j'ai dit, unique, tout ça. Alors, c'est ce que nous disons que c'est vraiment un secteur de confiance, un secteur de crédibilité, où l'assureur doit montrer cela à travers le service qu'il offre
Maurice, pensez-vous, avec l'expérience que nous avons connue, oui Maurice, mais on a connu des problèmes, bien sûr, on a déjà évoqué les difficultés de l'assurance, l'invité a expliqué vraiment toutes les origines, mais pensez-vous qu'avec la libéralisation, on peut enfin arriver à avoir des sociétés de qualité qui peuvent offrir plutôt un service de qualité, enfin d'attirer la population?
Exactement, Pierrot, à la mesure, parce que vous savez que, comme nous disons d'abord, hormis en fait ce que nous avions relevé, il y a également aussi l'aspect en fait financier. Ceux qui viennent en fait intervenir dans ce domaine-là des assurances, ce ne sont pas en fait des minables, ce sont des gens qui ont en fait des dentilles. C'est-à-dire c'est un secteur comme nous le voyons dans les domaines des banques. Et raison pour laquelle je voulais même épingler le secteur même infrastructurel. Vous allez voir, quand vous allez au siège social de l'assurance, même déjà par l'infrastructure, le bâtiment, ça vous donne même déjà quelques doutes. Ça relève un peu de certains doutes. Et celui qui vient pour souscrire se demanderait, mais est-ce que vraiment je peux m'amuser, je peux vraiment m'aventurer dans une entreprise où même par la forme, je ne suis pas encore assuré par rapport à la qualité de l'infrastructure. Mais ailleurs, comme je disais, quand vous voyez déjà les bâtiments, vous-même, vous êtes déjà impressionné. Et là, vous donne même, en fait, du courage à souscrire à
pouvoir. Merci donc, beaucoup, beaucoup, Maurice, parce que là, on a beaucoup de gens qui se bousculent pour cette dernière partie de l'émission, mais vous saluez la réforme tout en estimant que cela pourra améliorer la qualité des services et comme ça, redonner confiance dans le secteur des assurances dans notre pays. Merci beaucoup. Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à notre invité.
On vous écoute, Adrien.
Oui, merci beaucoup Pierrot de l'opportunité. Je pense que la libéralisation est une bonne chose. Ça a toujours été mon credo depuis très longtemps. Mais attention, ne nous allons pas à la base pour dire que la libération à elle seule pourra améliorer les choses. Il y a des préalables d'abord parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça sera un investissement, c'est-à-dire nous allons maintenant vouloir appeler certaines personnes, les étrangers, pour venir peut-être investir chez nous dans ce secteur. Il faut commencer d'abord par assainir le secteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en y érigeant des instruments juridiques capables pour que ce chat-là puisse se sentir en sécurité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut venir s'aventurer pour dire que non, je vais au Congo pour investir et qu'il ne se rend pas compte qu'il sera vraiment sans une sécurité juridique. Là, c'est la première condition. Parce que je n'ai pas encore lu donc les codes d'assurance pour essayer un peu de comprendre quels sont les garde-fous qu'on a essayé un peu de mettre pour sécuriser les gens et aussi pour attirer une certaine clientèle pour qu'elle vienne au Congo. Sinon, si nous nous arrêtons tout simplement à ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, ce sera compliqué, on ne verra pas les étrangers, ce sera toujours les Congolais comme certains amis ont eu à émettre leurs craintes, ceux-là qui ont eu à gérer d'abord la SONAT dans le passé pour essayer de faire leur société. De tous ces côtés-là, il n'y aura pas de crainte parce que ce sera une certaine compétitivité. C'est-à-dire que c'est celui qui aura peut-être un bon passé, c'est celui qui aura un bon bilan, c'est celui-là qui aura attiré
profit. Mais merci beaucoup, Adrien. On revient directement au professeur Marcel Moulumba. Vous avez suivi cette inquiétude de notre compatriote des Kananga par rapport à la sécurité juridique. Quand nous voyons le nouveau code, à part l'autorité des régulations, il y a aussi le conseil consultatif des assurances qui doit émettre un point de vue. Mais au point 2-3, je crois bien le code fixe aussi le rôle que l'État doit jouer dans les contrôles du secteur. Pensez-vous que c'est assez suffisant comme garantie juridique pour ceux-là qui peuvent venir investir, professeur?
Je pense que si l'État joue toujours son rôle régalien dans tout secteur économique, je voudrais rassurer notre ami Adrien et notre ami Maurice qu'ils ne peuvent pas s'inquiéter. J'ai lu, moi, de fond en comble, le code des assurances. Il est bien ficelé. Vous avez suivi dernièrement qu'il était... Monsieur le ministre des Finances avait commencé à faire un recrutement des inspecteurs des assurances, et ces inspecteurs d'assurance doivent être formés sur le type de contrôle qu'il faudrait effectuer dans le domaine des assurances. Contrôle des compagnies d'assurance pour qu'il n'y ait pas de prédateurs sur le marché, pour vérifier leur solvabilité, mais également contrôle d'application des tarifs, pour qu'il n'y ait pas toutes les manœuvres dilatoires sur le plan commercial. Tous les contrôles sont prévus, les contrôles juridiques et les contrôles techniques. Donc, sur le plan de la sécurité, ne confondons pas, il y a le problème de la sécurité des risques et la sécurité de ceux qui viennent investir, mais aussi il y a la sécurité de ceux qui viennent dans le pays. Du point de vue de la sécurité de ceux qui viendront dans notre pays, il faut placer le secteur des assurances dans le secteur économique d'une manière générale. Vous avez vu, à un certain moment, le gouvernement s'est battu pour pouvoir maîtriser les paramètres macroéconomiques, l'inflation maîtrisée. La déroute de l'assurance en son temps, c'était la réglementation des changes également. Parce qu'actuellement, la Société nationale d'assurance n'a pas de réassureur ferme, sûr, derrière elle. Sauf que j'ai vu à Ficaré, qui s'est passé par train de s'évertuer pour nous aider, et la Ficaré, qui sont les compagnies africaines. Mais les compagnies étrangères sont parties tout simplement parce que la SONAT n'arrivait pas à payer les primes de réassurance. Pourquoi est-ce qu'elle ne payait pas? Simplement parce que les primes étaient perçues en francs congolais ou en Zaïre à l'époque, et l'inflation battant. Au moment où vous placez ces fonds auprès de la Banque centrale pour avoir la devise correspondante, la valeur de ce que vous avez placé était complètement déjà perdue. Alors, vous voyez, maintenant, la chance de 2001, où à un moment quelconque, l'État a pris la décision de faire courir différentes devises, dont le dollar et les autres monnaies sur le marché, dans les transactions, a sauvé la SONAS, sinon la SONAS n'existerait plus. A sauvé la SONAS, et il faut continuer comme cela. Il faudrait que les gens puissent savoir qu'il faut distinguer l'argent avec lequel on peut gérer l'entreprise et l'argent qui est prévu pour payer les sinistres. J'ai suivi Maurice qui a parlé de ce qui est arrivé au Gabon. Il a raison. Effectivement, en principe, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Tant qu'une assurance arrive à échéance, il y a toujours un délai de grâce. Et donc, il était dans le délai de grâce. Et ça, ça doit se savoir. Alors, en plus de cela, excusez-moi, je ne serai pas l'avocat de la SODAS, mais le jeudi sinistre qui se fait actuellement, je pense que c'est dans la lutte de pouvoir lancer cette culture des assurances. Et malheureusement, nous ne sommes que dans les assurances de l'automobile. Or, les assurances automobiles sont des assurances déficitaires, par nature. Et donc, la SONAS, elle trouve entre le marteau et l'enclume. Elle veut faire la publicité, mais elle se trouve dans une branche où il faut payer, et payer beaucoup et rapidement. Toutes les lois prévoient les délais de paiement. En son temps, même les lois dont je vous ai parlé, qui sont déjà dissuades, ces lois-là prévoyaient, ou cette loi à l'automobile prévoyait qu'il faut payer le sinistre en délai un mois. Malheureusement, faute de fonds et faute d'argent, faute de la confusion et faute du mauvais comportement de la population, des gestionnaires, mais également de ceux qui n'avaient pas compris, mais qui étaient à la responsabilité en ce temps-là, la SONA s'est retrouvée avec un déficit financier, avec un déficit de solvabilité. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors, pour sauver la SONA, peut-être vous allez poser la question là-dessus, il faudrait un ballon d'oxygène, il faudrait une bonne gouvernance de la SONA. Il faudrait reformer les gens. J'ai entendu un frère parler de la formation. Il faut reformer les gens. Moi, j'étais en formation à l'étranger, au moment où je faisais ma thèse. Mon promoteur, qui était un actuaire, le président des actuaires de la Belgique, me disait, mais pourquoi l'Afrique de l'Ouest envoie des personnes pour étudier l'actuariat et la République démocratique du Congo n'a personne au milieu de nous? Ça, ce sont des choses qu'il faut faire.
Oui, professeur, on revient à vous rapidement. Il y a des auditeurs, on pense peut-être qu'on pourra les avoir. On va revenir à vous pour finaliser et surtout conclure. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Pourriez-vous prendre une minute pour vous et aussi une minute pour Arsène? Docteur Richard, bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tout le monde et félicitations, professeur, pour ce qui est sorti de sa bouche. Mais moi, je pose une question. Un pays qui ne respecte pas la loi des lois, qu'est-ce que la réforme actuelle de la SONAS va faire? On est géré par deux verbes de Lingala. Yebela qui conduit les gens en prison, comme les enfants de Lucha, Tumbila Poto Ibata qui fait donner aux uns de 500 francs un meeting ou des masques. Qu'est-ce que cette réforme va faire?
Et là, docteur Richard, vous vous inscrivez dans, comme le disait tout à l'heure notre ami Félicien, que nous sommes dans un système. Lui, il estime que la réforme, quand le système global ne change pas, la réforme ne peut pas profiter dans ce sens. Où vous évoquez ces questions, docteur Félicien a parlé tout à l'heure des antivaleurs, qu'une réforme, quand les antivaleurs continuent, ne peut pas profiter. On va voir ce qu'en pense notre invité rapidement. Arsène, vous êtes à Dar es Salaam, on avait eu des petits soucis avec vous, mais maintenant, je crois que la ligne s'est améliorée, Arsène. Rapidement, Arsène.
Ok, moi j'ai la confiance avec vous, parce que moi j'ai été victime, et avec la programme de victime, j'ai un difficulté, et je n'ai respecté tous les procédures de la SONAS, et j'ai été.
Dommage qu'on ne sait pas. On ne sait pas vous joindre facilement, Arsène. On revient à vous, professeur. On a suivi les uns et les autres. Il y a cette inquiétude de Dr. Richard. Félicien l'a dit aussi au début. Est-ce que la réforme, quand elle s'accompagne peut-être pas d'une amélioration globale des climats des affaires ou bien de respect des lois, du système, des gestions, est-ce que cela peut arriver vraiment à profiter?
Oui, je pense qu'il faudrait être optimiste. Hein. Ça reste un problème de verre à demi plein, à demi vide. La grande transformation d'une nation passe par la transformation de l'homme. Les efforts sont fournis par les uns et les autres pour le moment, pour que l'homme soit transformé. Et alors, comme nous avons dit, les assurances sont un secteur de confiance et de crédibilité. Il est certain que ceux qui vont montrer leur confiance, parce que la confiance, on la perd très rapidement et on la reconquiert difficilement. Je sais que la SONAS a perdu un peu la notoriété, mais si la SONAS commence à comporter comme un secteur vital des assurances, je pense que les gens iront aussi vers elle. Mais nous disons, il y a de nouvelles compagnies qui viennent. Il faut essayer. Essayer la confiance dans ces nouvelles compagnies, y compris également la SONAS, peut-être nouvelle forme, nouvelle formule, avec de nouvelles personnes. Et puis éprouver. Et quand on se rend compte que ça marche, adhérer.
C'est comme ça qu'on peut se transformer petit à petit, petit à petit. Il ne faut jamais fermer les portes. Il faut essayer de toucher au poignet. La porte peut s'ouvrir et les choses peuvent aller convenablement.
Un mot, professeur, comment la FNAS elle-même peut-elle arriver à faire face à cette concurrence?
Actuellement, la FNAS est une société commerciale dont le seul actionnaire, c'est l'État. Maintenant, c'est à l'État de pouvoir faire un choix. Si c'est l'État qui reste le seul actionnaire dans une société anonyme, peut-être qu'il y a un petit problème. Il va falloir qu'il trouve d'autres personnes. J'ai vu comment est-ce que le Rwanda, par exemple, a pu sortir des difficultés. Le Rwanda s'en est sorti comment? En faisant un noyau dur avec des personnes locales qui seraient parties du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Et ces personnes apporteraient, des grands commerçants apporteraient toutes les affaires auprès de cette compagnie. Et le Rwanda s'est retrouvé avec 70%, la Sonarwa, s'est retrouvé avec 70% de parts de marché, et que toutes les autres compagnies qui venaient nageaient dans les 30% du marché.
Voilà.
Donc ça, ce sont des stratégies que l'on peut faire.
Merci.
En plus de cela, on peut aider la Sonarwa à développer les assurances de masse.
Merci beaucoup, professeur Marcel Moulumba. Vous êtes spécialiste en assurance et aussi ancien PDG de la SORAS. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour cet échange avec les auditeurs, à qui nous disons merci parce qu'ils ont été nombreux. Merci aussi à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs. Paul Bayanyama était à la mise en onde, J.R. Longuembo à la réalisation et coordination. Et Pierrot et la Mégie vous a présenté ce magazine sous la supervision de Martin Seboujangwe, fidèle auditeur. Restez fidèles parce que le programme continue sur la fréquence de la paix. Au revoir. Thank you.